prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, tu nous as donné en Jésus l'exemple de celui qui a ajusté ses paroles et ses actions. Donne-nous la grâce de suivre son exemple, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Les disciples étaient en train de ramer encore pour amener Jésus dans la barque sur le bord de la mer de Galilée. Et les enfants qui étaient au bord, les pêcheurs qui étaient là, ont été criés dans la ville de Capernaum que Jésus revenait. Les gens sont sortis des maisons, ils sont venus à sa rencontre parce que c'était encore le début du ministère de Jésus. Et les gens étaient désireux d'être avec lui, de le rencontrer. Ils étaient désireux d'être avec lui et de voir les merveilles que Jésus était capable de faire. Jésus était à peine arrivé au bord du lac, il était à peine sorti de la barque. Il y avait là une foule de gens. Les gens étaient contents de le voir, les enfants sautaient sur le bord de la rive. Et quand Jésus est arrivé, une foule l'attendait. Les enfants tiraient sur sa robe, « Raconte-nous une histoire, raconte-nous une histoire !» Et les adultes disaient, « Quel accueil as-tu eu de l'autre côté du lac ?» Pour eux, c'était très loin. « Comment des gens t'ont-ils accueilli ? Qu'as-tu pu faire pour ces gens là-bas ?» Et la foule le pressait de toutes parts. Et je pense que, aujourd'hui déjà, tous ceux qui se tiennent près de Jésus constituent cette foule de gens très diverses, des grands, des petits, des plus jeunes, des moins jeunes. Mais dans la foule de ceux qui pressaient Jésus, il y avait plusieurs sortes de gens. Il y en avait qui étaient là parce qu'ils avaient le désir d'être avec Jésus, ils l'avaient vu agir, ils l'aimaient cet homme. D'autres étaient là parce que ils cherchaient une parole, une action qu'ils puissent rapporter au chef du peuple et par lequel Jésus pourrait être condamné, pourrait être arrêté. D'autres étaient là pour voir par curiosité ce que Jésus allait faire. Ils étaient là pour trouver dans ses paroles et dans ses actions quelque chose qui pourrait justifier le fait qu'ils n'allaient pas croire en lui. Parce qu'il a dit cela, parce qu'il a fait cela, non, je ne vais pas croire en lui. Dans la foule, il y avait tous ces gens-là. Et il y avait aussi ceux qui étaient venus parce que ils avaient reconnu à quel point ils avaient besoin de Jésus. Il y a ceux qui voulaient être guéris. Il y a ceux qui avaient besoin que Jésus les touche, les réconforte, les guérisse. Dans la foule qui suit Jésus aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi toutes sortes de gens différents. Et je me demande, dans la foule que nous sommes aujourd'hui, combien de catégories se trouveraient représentées parmi nous de ces différentes personnes qui sont présentes pour différentes raisons, pour des bonnes, pour des mauvaises, mais tous présents autour de Jésus quand même. Est-ce que nous sommes venus pour de bonnes raisons ? Est-ce que nous nous pressons autour de Jésus pour de bonnes raisons ? Ou est-ce que nous cherchons dans la parole, dans la prédication, dans l'étude de la parole de Dieu, quelque chose qui va nous permettre de dire « Ah non, ça, non, 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 ça je ne vais pas croire. » La foule était là et Jésus avait de la peine à avancer. Il voulait aller dans la maison de Matthieu. Et cette ville de Capernaum avait été appelée finalement la ville de Jésus parce que pendant un certain temps, Jésus a demeuré là. Il y avait de la difficulté à avancer, les gens lui posaient toutes sortes de questions. Et Jésus, gentiment, s'occupait des plus petits, s'occupait des plus grands. Un homme arrive, un homme bien habillé. Il arrive en courant. Jésus le connaît, c'est le chef de la synagogue, c'est Jaïrus. C'est un notable de la ville. Alors en le voyant arriver, la foule s'écarte un peu parce que c'est un personnage respecté. Et cet homme vient tout essoufflé voir Jésus. Il a appris lui aussi que Jésus est de retour dans la ville et il veut être sûr de le voir rapidement. Jaïrus s'approche, tout essoufflé, et il fait quelque chose que l'on n'a jamais vu Jaïrus faire jusque-là. Il se jette aux pieds de Jésus. Les deux hommes se connaissaient. Jésus avait discuté avec Jaïrus, chef de la synagogue. Ils avaient eu des discussions théologiques ensemble. Ils se connaissaient bien, mais enfin, Jésus était quand même ce rabbi un petit peu marginal. Il n'est pas sorti des écoles. Il n'a pas son diplôme des grandes universités. Mais il était devenu respectable parce que finalement, il en savait plus que tous les autres. Et il y avait quand même quelque chose qui rayonnait autour de lui et qui était étrange. Mais cette fois-ci, Jaïrus va peut-être oublier un instant qu'il est le chef de la synagogue, parce que ce n'est pas en tant que chef de la synagogue qu'il vient voir Jésus, c'est en tant que père de famille. Et les gens sont étonnés, cette foule s'est calmée parce que cet homme bien habillé est arrivé au-devant de Jésus, tout le monde le connaît dans la ville, c'est un homme respectable et respecté, mais cette fois-ci, il va peut-être oublier le rang qu'il a, il va se jeter aux pieds de Jésus et en pleurs lui dire « Rabbi, viens dans ma maison. Ma fille unique, elle est à la mort. Viens vite faire quelque chose. » On n'avait jamais vu Jaïrus dans cet état-là. On n'avait jamais vu Jaïrus se mettre aux pieds de Jésus. C'est que la souffrance, parfois, nous amène à oublier les choses que le monde nous a données, les galons que le monde a placés sur nos épaules. La souffrance et la difficulté fait de Jésus celui au pied duquel on vient, juste avant que ce soit trop tard. Sa fille est une fille unique. Et Jaïrus est vraiment dans une situation difficile. Parce que n'avoir qu'un seul enfant, ce n'est pas vraiment la plus grande des bénédictions. Mais lorsque cet enfant est en péril et qu'il meurt, tout le monde va se demander, mais enfin, qu'est-ce que Jaïrus a donc pu faire pour que la toute petite bénédiction que Dieu lui a donnée, il la lui retire encore? Un seul enfant, et en plus, ce n'est même pas un garçon. Et voilà qu'elle meurt. Ça met Jaïrus, en fait, lui-même dans une situation difficile devant les gens de son peuple, parce que ils vont penser que Dieu a retiré cette toute petite bénédiction qu'il lui a donnée parce qu'il n'en est même plus digne. Mais il est chef de la synagogue, enfin. Que vont penser les gens? Que va-t-il devenir si sa fille meurt? Et puis, mis à part ça, tout père, lorsque sa fille ou son enfant meurt, va faire tout ce qu'il peut pour qu'elle soit sauvée, pour qu'il soit sauvé, tout ce qu'il peut. Et Jaïrus vient et se jette aux pieds de Jésus. « Seigneur, fais vite. Elle meurt. Elle n'a que 12 ans. » Jésus regarde cet homme droit dans les yeux et prend tout de suite le chemin de sa maison. Mais la foule est là, il y a tous ceux qui sont curieux. Ah, tous ceux qui veulent voir quelque chose d'extraordinaire. Ceux qui veulent avoir un article à écrire dans le journal du lendemain. Ceux qui veulent avoir quelque chose à raconter à leurs voisins. Partout. J'étais là, je l'ai vu. Ceux qui veulent en rajouter, en faire un roman, un best-seller à vendre. Ils sont tous là aussi. Et Jésus a du mal à avancer parce que les enfants lui demandent « Raconte-moi encore une histoire. Jésus, tu ne m'as pas raconté mon histoire. » Et puis d'autres gens qui viennent et qui lui disent « Seigneur, écoute, lorsque tu auras fini dans la maison de Jaïrus, viens chez moi parce qu'il y a ceci. Et puis viens chez moi parce qu'il y a cela. Seigneur. » Et Jésus avait du mal à avancer, du mal à progresser. Et puis dans cette foule, il y avait cette femme. Cette femme, nous ne connaissons même pas son nom. Mais depuis 12 ans. Depuis 12 ans, cette femme lutte. Elle est dans la peine et la souffrance. Le texte nous dit dans l'évangile de Luc au chapitre 8 où cette histoire est racontée qu'elle a couru chez tous les médecins possibles et imaginables de la région. Elle a raconté son affaire à chaque médecin. Et ce n'était pas drôle pour cette femme de raconter son histoire. C'est une femme qui, depuis 12 ans, souffre d'une perte de sang. Et les médecins ont entendu, ils ont écouté. Ils n'ont rien fait, mais ils ont pris son argent. Elle a attendu des heures et des heures dans la salle d'urgence. Elle a passé des heures et des heures à la CLSC en attendant qu'on s'occupe d'elle. Elle était mal à l'aise. Elle a abandonné l'espoir de retrouver la santé, d'être guérie depuis 12 ans. Elle est embarrassée, cette femme, parce qu'elle ne sait plus comment vivre. Pensez, elle a des pertes de sang depuis 12 ans. Cette femme doit être maigre comme un clou. Cette femme, elle n'a plus de force. Cette femme est anémique. Cette femme, elle n'est pas en santé. Elle doit porter sur son visage la maladie. Elle est faible. Oh, elle mange tout ce qu'elle peut, mais elle perd ses forces constamment. Elle se traîne tout le temps. Elle a perdu son courage. Elle ne trouve pas de guérison. Elle ne peut le dire à personne, parce qu'en plus de cela, puisque depuis 12 ans, elle perd son sang, cette femme est impure toujours, en permanence, depuis 12 ans. Elle ne peut pas aller au temple, elle ne peut pas aller à la synagogue, elle est impure. Mais pire que cela, tout ce qu'elle touche est impur. Alors elle ne le dit pas parce que sinon la vie est impossible. Tout ce qu'elle touche devient impur. Alors elle est très refermée sur elle-même, cette femme, elle vit pour elle-même. Elle ne va pas non plus avec les autres femmes le jour de la lessive à la rivière. La rivière, c'est l'endroit où les femmes se retrouvent, où elles font la lessive, chaque fois le même jour. Elles discutent, elles racontent tout ce qu'elles ont vécu. Elle n'ira pas là. Il n'y a pas les commodités d'aujourd'hui. Sa lessive, elle la fera chez elle, dans sa cour, toute seule. Elle ne veut pas que le monde sache. Si on sait, on va la rejeter, elle sera impure, on va la mettre avec les lépreux. Tout ce qu'elle touche est impur. Et elle le sait. Alors elle ne dit rien. Parce que des gens vont la toucher. Elle va garder ça pour elle-même. Elle a su aussi que Jésus a opéré des miracles extraordinaires. Et dans son esprit a grandi l'idée que si Jésus a pu faire cela pour les autres, sans doute il pourrait aussi le faire pour moi. Elle n'a jamais entendu que Jésus avait guéri de cette maladie-là, mais enfin, il en a guéri tellement d'autres. S'il l'a fait pour les autres, ne le ferait-il pas aussi pour moi ? Alors, elle va concevoir un plan. Elle va se joindre à la foule. Et tant pis, c'est sûr, dans la foule, tout le monde touche tout le monde, mais ils ne savent pas. Moi seul, je sais. Et elle va gentiment dans la foule, discrètement, parce qu'on ne va pas passer devant un homme. Non. Mais gentiment, se faufiler pour être tout près de Jésus. Elle s'est dit, je ne peux pas lui dire ce que j'ai, mais sans doute que si je le touche, il pourra me guérir. Alors elle vient dans cette foule, elle a son plan. Gentiment, mine de rien, elle essaie d'être avec les autres, d'être comme tout le monde, de s'approcher de Jésus. Elle doucement joue des épaules un peu par-ci, un petit peu par-là, passe gentiment devant un enfant, passe gentiment devant une autre femme. Et toujours le cou tendu pour voir Jésus un peu mieux, elle essaye de s'approcher de Jésus sans qu'on s'en rende compte. Et à ce moment-là, Jésus change de direction et le voilà de l'autre côté de la foule, parce que la foule est mouvante. Elle a le cœur qui bat. Mais Jésus est loin de nouveau. Alors elle recommence, elle s'approche, elle sait où il va, à la maison de Jaïrus. Alors elle approche, elle passe encore devant l'un, devant l'autre. Et ça y est, il est là. Et son cœur bat fort. Et elle fait semblant qu'elle a besoin de remettre sa chaussure. Et paf, elle touche le manteau de Jésus. Et elle sent en elle quelque chose d'extraordinaire. Elle sait qu'elle est guérie. Depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Elle ne l'a dit à personne. Peu de gens probablement le savaient. Mais je crois que beaucoup aussi dans le monde d'aujourd'hui ont gardé au fond de leur cœur cette difficulté secrète, ce problème secret, ce péché secret, cette dépendance secrète. Cette chose qu'on ne peut pas dire parce que ça ne va pas si on le dit. Peut-être qu'on se moquera de moi, peut-être qu'on pensera que je suis tellement indigne, on va me mettre avec les lépreux, moi aussi. Il y a peut-être cette difficulté qu'on a dit à personne qui nous empêche de venir. Et dans le livre « Vers Jésus » se trouve ce paragraphe qui décrit admirablement cet état d'esprit que nous pouvons avoir les uns et les autres lorsque nous sommes dans cette situation. Vous désirez vous donner à Jésus, mais vous êtes faible moralement, esclave du doute et sous l'empire des habitudes de votre vie de péché. Vos promesses et vos résolutions sont comme des toiles d'araignée. Vous ne pouvez dominer sur vos pensées, vos impressions, vos affections. Le souvenir de vos promesses non tenues et des engagements auxquels vous avez failli affaiblit votre confiance en votre propre sincérité et crée en vous le sentiment que Dieu ne peut vous accepter. Mais vous n'avez pas lieu de désespérer. Vous ne pouvez changer votre cœur. Vous ne pouvez de vous-même donner à Dieu vos affections, mais vous pouvez décider de le servir. Vous pouvez lui donner votre volonté et alors il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça traduit admirablement le sentiment de frustration que nous avons face à ces choses que nous portons, pour lesquelles nous n'avons pas eu la victoire et que nous ne pouvons pas partager. Cette femme a un jour décidé, j'irai, je le verrai, je le toucherai et il me guérira. Elle a choisi parce que c'était la dernière extrémité, c'était la seule solution qui restait. Elle avait essayé toutes les autres, comme nous avons essayé toutes les autres avant aussi. Il n'y en avait plus qu'une. Et pour celle-là, elle a décidé qu'elle ferait tout. Elle y est allée. Elle a touché Jésus. Depuis 12 ans. Mais remarquez, dans le texte, Luc nous raconte que cet enfant qui était morte, ou presque, avait elle aussi 12 ans. Cet enfant a 12 ans, et depuis 12 ans, cette femme est malade. Dans les Écritures, le chiffre 12 n'est pas anodin, il a un sens. Le chiffre 12 s'est associé au peuple, c'est le chiffre du peuple. Jésus est là, au milieu de son peuple. Il est là pour les enfants du peuple, il est là pour les femmes du peuple, il est là pour les malades, il est au milieu de son peuple. Le Jésus qui est au milieu de son peuple, c'est Emmanuel, celui qui est venu au milieu de nous. Une enfant de 12 ans, une femme malade de 12 ans, Jésus est là pour son peuple, il est au milieu de son peuple. Et le miracle, pense cette femme, c'est qu'elle a été guérie. C'est sûr, elle a été guérie. Mais le miracle, le vrai miracle, elle n'en voit pas toutes les dimensions. Il dépasse ce qu'elle imagine, le miracle. Parce que Jésus est venu dans ce monde. Mais nous ne pouvons pas le souiller. C'est lui qui nous contamine par sa pureté. Jésus est venu dans ce monde. Et nous tous, pécheurs, sommes venus pour recevoir de lui quelque chose. Nous sommes pécheurs, nous sommes aussi des impurs finalement, et tout ce que nous touchons devient impur aussi. Est-ce que Jésus va le devenir parce que nous nous sommes accrochés à lui? Mais non, le miracle c'est que Jésus ne sera pas impur. Jésus de sa pureté céleste et divine va nous donner sa pureté, sa grâce, sa guérison. C'est lui qui va, si on peut s'exprimer ainsi, nous contaminer de sa force, de sa pureté, de son salut. Et c'est là finalement le grand miracle. Elle a été guérie. Mais l'histoire continue, parce qu'en réalité, le plan de cette femme a échoué à moitié. Elle a été guérie, mais elle voulait toucher gentiment le bord du vêtement de Jésus et sans que personne voie rien rentrer à la maison et arriver à la maison, sauter de joie parce qu'elle avait été guérie. Elle ne pouvait pas sauter devant tout le monde. Il fallait qu'elle rentre en serrant les dents jusqu'à la maison pour crier « Alléluia » une fois chez elle. Et non. Jésus se retourne et dit « Quelqu'un m'a touché. » Alors le gros Pierre arrive, bah oui, évidemment, quelqu'un t'a touché, Seigneur, regarde, on est dans la foule, il y en a plein partout. On rencontre partout de ces gens qui savent toujours mieux que les autres, qui sont toujours prêts à ouvrir la bouche et qui connaissent tout et tout le monde, qui les ont fait toutes, qui savent tout, et qui se rendent ridicules quand ils ouvrent la bouche en présence de Jésus. Les Pierres. Des impulsifs qui savent tout, qui connaissent tout, qui sont prêts à regarder les autres de très haut parce que eux, ils l'ont. Qu'ils ont l'air ridicules quand ils ouvrent la bouche en présence de Jésus. Jésus dit non, 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 non. Pierre, je suis pas si bête que ça. Contrairement à ce que tu pourrais croire. Quelqu'un m'a touché parce que, dit Jésus, une force est sorti de moi. On n'entend plus Pierre. Et cette femme est là, elle dit non, non, il le sait. Elle aurait dû le savoir, enfin. Et il y a là un espace qui se crée, comme pour dire, non, non, mais moi j'ai rien fait, Seigneur, j'ai rien fait, moi, non, non. Et cette femme est là. Tous se sont reculés, mais pas elle. Elle n'a plus qu'une chose à faire. Elle n'a plus qu'une chose à faire, dire ce que Jésus a fait pour elle. Alors elle se jette elle aussi aux pieds de Jésus. Et elle dit, Seigneur, je vais tout te dire. Elle a peur de se faire gronder par Jésus, des fois qu'elle ait fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Elle dit, voilà, je souffrais de ceci, je souffrais de cela, depuis 12 ans, Seigneur. Et personne n'a pu rien faire pour moi. Seigneur, tu étais ma dernière ressource. Et je l'ai saisie. Et je suis guéri. Et vous voyez cette femme qui n'a pas besoin d'attendre d'être à la maison pour crier Alléluia, elle le fait sur place. Mais attendez un peu. Il y a Jaïrus qui est là. Et qui se ronge les ongles depuis un moment et qui dit, mais Seigneur, laisse cette femme tranquille, ma fille est en train de mourir. Il ne peut pas le dire. Et il est là, et il ronge son frein. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, dépêche-toi. Cette femme, ça fait 12 ans qu'elle est malade, elle pouvait attendre un jour de plus. Vous imaginez les sentiments qui passent dans l'esprit de Jaïrus qui est là, qui attend, ça n'avance pas, sa fille est mourante, la foule le bloque. Et voilà que cette femme qui fait toute une histoire. Seigneur, dépêche-toi. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? C'est une femme, laisse tomber. Vous pensez à tout ce que Jaïrus peut penser? Il ne peut pas bouger, il ne peut rien dire, mais dedans, ça boue. Seigneur, dépêche-toi. Et Jésus prend son temps. Jésus se tourne vers cette femme et il ne lui dit pas « Tu es guérie ». Elle l'est, elle le sait. Jésus se tourne vers cette femme et lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » C'est qu'elle n'est pas seulement guérie, c'est qu'elle est sauvée. Sa détermination, sa foi, son choix et cette volonté d'avoir recours au Christ, sinon c'est rien, a fait qu'elle n'a pas seulement été guérie. Sa foi l'a sauvée. Et il y a dans cette foule une personne qui chante les louanges du Seigneur, elle est guérie. Elle n'a plus besoin de retourner à la maison pour chanter toute seule dans sa maison. Elle peut rester dans la foule et se réjouir avec les autres. Mais Jaïrus est là. Oui, elle est guérie, c'est bien beau, mais voilà quelqu'un qui vient de la maison de Jaïrus. Un de ses serviteurs qui arrive, qui approche de Jaïrus et qui lui dit « Laisse le maître tranquille pour ta fille, c'est plus nécessaire. » Et Jésus entend. Et Jésus se tourne vers Jaïrus. Parce que Jésus sait ce qui se passe dans le cœur de Jaïrus depuis un bon moment. Tout le temps où Jésus s'est occupé gentiment des uns, des autres, des enfants et puis de cette femme. Pendant tout le temps où il a parlé à cette femme, où il l'a encouragée, il entendait Jaïrus penser tout fort. Alors il a pris son temps. Parce qu'il ne voulait pas la laisser rentrer chez elle comme ça, cette femme. Il fallait qu'elle donne son témoignage. Il fallait qu'elle dise ce que Jésus a fait pour elle. Il fallait qu'elle sache que ce n'est pas simplement parce qu'elle avait touché le vêtement de Jésus qu'elle était guérie. Il fallait qu'elle sache, parce que Jésus le lui a dit, c'est ta foi qui t'a sauvée. C'est cette confiance totale, absolue, définitive, qui a fait que tu as été sauvé. Et il fallait que les autres l'entendent. Une foi suffisante pour que ce soit Jésus et rien d'autre. Et Jésus lui a dit, et Jésus lui a fait comprendre. Jésus a voulu que cette femme soit relevée. Elle était personne pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle ne pouvait toucher personne. Pendant 12 ans, elle ne pouvait pas aller à la synagogue. Pendant 12 ans, elle ne pouvait rien faire. Pendant 12 ans, elle était hors du jeu. Et Jésus se retourne, il veut la voir, il veut la relever et lui rendre sa dignité humaine. Cette femme, elle est là avec les autres, elle n'a pas besoin de craindre les autres, elle peut les toucher maintenant tous. Elle est pure parce que Jésus l'a guérie et Jésus l'a sauvée. Mais Jaïrus est là. Alors Jésus se tourne vers Jaïrus et ne laisse pas les sentiments de Jaïrus aller plus loin. Il est déjà depuis un bon moment sur les charbons ardents. Maintenant on vient lui dire, ta fille est morte, c'est plus la peine. Le Seigneur ne peut plus rien faire pour elle. Tout de suite Jésus se tourne vers Jaïrus et lui dit, ne crains pas. Crois seulement, elle sera sauvée. Il vient de le dire à cette femme, ta foi t'a sauvée. Mais il a vraiment l'impression que la foi de cet homme, cette foi qui l'a conduit vers Jésus, qui l'a mis à ses pieds pour demander la guérison de sa fille, cette foi-là, on n'est pas sûr qu'elle est là encore. Alors Jésus se tourne vers lui et lui dit, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Aussi. Facile à dire. Facile à dire à un père qui a perdu son enfant. Mais ce n'est pas un homme qui le dit, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un pasteur, c'est Jésus. Ne crains pas, crois seulement. Et il continue à marcher vers la maison de Jaïrus. Ils sont déjà tous là. La tradition veut que pour un deuil, il faut qu'il y ait au moins 2 joueurs de flûte et 1 pleureuse. Ça, c'est le minimum des pauvres. Jaïrus, chef de la synagogue, oh, il y a déjà là tout un orchestre de flûte qui joue ses lamentations. Et les pleureuses, payez s'il vous plaît pour pleurer le deuil de la petite fille. Jésus arrive dans ce tintamarre et dit, non, taisez-vous, elle n'est pas morte, elle dort, voyons. Et vous les voyez tous qui éclatent de rire, qui ne peuvent plus jouer de leur flûte parce qu'ils rigolent. Elle dort, en voilà encore un qui ne sait pas ce qu'il dit. Et dans le monde aujourd'hui, combien y en a-t-il? qui, lorsque vous leur dites que les morts dorment, vous rient à la face. Combien y en a-t-il qui vous rient de ce livre, la parole de Dieu ? Oh, ça a été écrit par des hommes. Et tu crois encore des choses comme ça, toi ? Combien y en a-t-il même dans le monde chrétien qui rit parce que l'on croit que Dieu a agi dans l'Ancien Testament, qu'il a délivré le monde en justesse par Noé et ses enfants ? Combien y en a-t-il qui disent « Bon, c'est belles histoires pour endormir les enfants la nuit, c'est pas là-dessus quand même qu'on va construire une foi, quoi. » Et qui rigole parce qu'ils trouvent ça très drôle. Jusqu'au jour où on s'est même moqué de Jésus, et je m'attends par conséquent à ce que, lorsque nous parlerons de Jésus, on se moque aussi de nous de la même manière, jusqu'au moment où. Et Jésus arrive et il fait taire ce bruit. Jésus ne peut pas travailler, Jésus ne peut pas faire son ministère dans le bruit, dans le tintamarre, dans le désordre. Et pourtant, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens s'imaginent que plus il y a de bruit, plus il y a de son, plus il y a d'excitation, plus le Saint-Esprit agit. Jésus a fait taire tout ce bruit. Il a voulu faire le silence dans le cœur de tous ces gens pour qu'ils comprennent que quand Dieu agit, il agit en profondeur pour toucher le cœur des uns et des autres. Taisez-vous, arrêtez ce bruit. Tout le monde dehors. Et vous pouvez imaginer Jésus qui parle là avec autorité. Plus personne n'ose rien dire. Les pleureurs ont terminé leur travail. Les joueurs de flûte ont rangé leur flutio. Et tout le monde sort. C'est pas nécessaire que Jésus fasse un grand discours. Stop, arrêtez ce bruit. Combien de chrétiens aujourd'hui, par le bruit, par l'excitation, par la transe, si c'est nécessaire, et un tintamarre énorme que l'on appelle soi-disant musique, pensent invoquer le Saint-Esprit. Je ne sais quel esprit est invoqué par le bruit. Je sais que le Seigneur l'a fait taire. Il va prendre avec lui Pierre, Jacques et Jean. C'est la première fois. C'est la première fois qu'il va prendre avec lui ces trois hommes. La maison est sans doute beaucoup trop petite pour recevoir encore toute une délégation. Et puis en fait, il veut parler aux parents, il veut que ça se fasse conscient de la présence de Dieu. Les autres sont dehors, il n'y a plus un bruit. Il a dit « Elle n'est pas morte, elle dort ». Ils savent qu'elle est morte. Jésus rentre avec le Père, la Mère, Pierre, Jacques et Jean. Et il va gentiment dans cette pièce. On a fermé les volets. Et c'est le silence. Elle est là couchée. Et Jésus va s'approcher de cet enfant comme si elle dormait tout simplement. Parce que pour Jésus, elle dort. Il va lui dire, « Mon enfant, lève-toi. » Son cœur va battre, et puis elle va s'asseoir, et vous voyez Jaïrus et sa femme qui sont là, pétrifiés. Et Jésus regarde Jaïrus parce que tout à l'heure, il a pensé des drôles de choses. Tout à l'heure, il a pensé, mais Jésus, tu m'as oublié, je t'ai demandé de guérir ma fille. Dépêche-toi. Tout à l'heure, il a eu des sentiments mauvais envers cette femme qui était la cause de la mort de sa fille. Si elle n'avait pas été dans le chemin, Jésus aurait pu venir. Si elle n'avait pas interrompu, Jésus serait venu à temps. C'est de sa faute si elle est morte. Et Jésus a pris son temps pour elle. Il a eu tout à l'heure des sentiments bizarres vis-à-vis de Jésus. Il a eu des sentiments mauvais vis-à-vis de cette femme. Dans son cœur, il a reproché à Jésus de ne pas lui avoir donné la priorité. C'était une urgence. Mais maintenant que sa fille est dans ses bras, il a honte de ce qu'il a pensé de Jésus tout à l'heure. Et Jésus le sait. Et ça vous est arrivé comme à moi, de dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Seigneur, qu'est-ce que t'attends pour répondre à ma prière? Seigneur, qu'est-ce que tu attends? C'est le dernier moment. Et pourquoi est-ce que tu as guéri celui-ci? Et pourquoi est-ce que tu ne m'as pas guéri? Pourquoi tu as répondu sa prière à elle et pas la mienne? Pourquoi il s'est passé quelque chose dans sa vie et que je ne vois toujours rien? Et vous n'avez pas eu aussi, parce que le Seigneur traînait, le sentiment qu'il y en avait d'autres qui passaient avant. Et que le Seigneur n'était peut-être pas aussi intéressé à exaucer notre prière que celle d'un autre. Et que le Seigneur, finalement, n'accomplissait pas ses promesses comme il avait dit. Et vous ne vous êtes pas surpris, vous ne l'avez pas dit, à avoir des mauvais sentiments envers le Seigneur parce qu'il n'accomplit pas, n'exauce pas la prière. Et je continue à prier. Mais quand tout d'un coup, un jour, quand tout d'un coup, un jour, la voix s'ouvre, comme disent les Écritures, au-delà de ce que nous avons pensé et demandé, n'avez pas eu honte de ce que vous avez pensé de lui à ce moment-là? Quand vous réalisez tout d'un coup que tout le long du chemin, il était en train de préparer cela, qu'en fait, il avait entendu exaucer cette prière juste avant qu'on s'en rende compte. Et Jaïrus, maintenant, est pris de ce remords parce qu'il a pensé du mal de cette femme. Maintenant, il est capable de se réjouir qu'elle soit guérie, mais il a pensé du mal de Jésus, il en a honte parce que maintenant, il se rend compte qu'avant même que Jésus ne soit venu dans sa maison, il savait ce qu'il allait faire. Sa fille a été ressuscitée et sauvée. On ne sait pas, on ne peut pas savoir, on ne peut pas imaginer ce que ça représente. D'avoir devant nous un enfant qui est mort et de le voir vivant parce que Jésus l'a pris par la main. Nous ne pouvons pas savoir, nous ne l'avons pas vu, nous ne l'avons pas vécu. Mais ces gens ont quelque chose à dire. Et pourtant, Jésus leur dit, s'il vous plaît, n'en parlez à personne. Comment est-ce possible? Après un événement pareil, vous voulez qu'ils se taisent. Mais la vie de cette jeune fille, elle parle, elle crie. Il n'y a même pas besoin d'en parler. Elle est là, vivante. Et Jésus dit, n'en parlez pas, ne dites rien. Ce n'est sans doute pas ce qu'ils vont faire. Ils vont parler, ils vont le dire. Elle va le dire, elle va le crier partout. Que nous soyons dans la synagogue ou pas, que nous puissions y entrer ou pas, que nous soyons dans l'église ou que nous n'y soyons pas, nous avons tous besoin de Jésus. Comme cette femme qui ne pouvait pas y entrer, ou comme Jaïrus qui en était le chef, l'un comme l'autre avait besoin de Jésus. L'un et l'autre se sont jetés à ses pieds pour qu'il agisse en leur faveur. Et de même pour nous aujourd'hui, que nous soyons dedans, que nous soyons dehors, nous avons tous besoin de Jésus. Le Sauveur, celui qui est venu au milieu de son peuple, pour les petits, pour les grands, pour les jeunes et pour les plus âgés. Il est venu pour tous ceux qui avaient besoin de lui. Et à tous ceux qui ont besoin de lui, Jésus nous fait cette promesse de nous guérir et de nous donner la vie, de nous sauver. Il choisira quand il veut nous guérir. Il choisira combien de temps va s'écouler avant que notre prière soit exaucée? Mais il nous conduira jusqu'au bout parce que nous avons choisi, nous avons voulu d'avoir besoin de lui parce qu'il est la dernière extrémité, la dernière réponse, la seule. Que nous soyons dehors, que nous soyons dedans, que notre péché soit caché ou qu'il ne le soit pas, C'est ce contact avec Jésus qui apportera la solution. Les difficultés de la vie sont toujours là. Mais Jésus l'est aussi. Et c'est la raison pour laquelle, à l'image de cette femme, à l'image de cet homme, qui que nous soyons, où que nous soyons, nous avons besoin de Jésus. Prenons-le aujourd'hui. Amen.